Sur Canal B, du 13 au 17 avril à 12h15, 8h15 en rediffusion, découvrez « Celles qui nous entourent », une série de podcasts issus d'un projet de jumelage sur 3 années, en partenariat avec le centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Depuis septembre 2023, le groupe Odyssée est allé à la rencontre des résidentes et résidents des unités de soins du centre hospitalier Guillaume Régnier, recueillant des récits pluriels, intimes et sensibles. À la suite de chaque épisode, Nina prolonge l'aventure et vous emmène dans les coulisses du projet à la découverte de celles et ceux qui l'ont fait vivre, artistes mais aussi soignantes. C'est lui qui nous entoure, à écouter sur Canal B.
Celles qui nous entourent. Première année, se rencontrer. Groupe Odyssée, compagnie de théâtre, est en résidence de création de 2023 à 2026, dans le cadre d'un partenariat avec le Grand Cordel MJC et le centre hospitalier Guillaume Régnier. Un projet transversal autour de la mémoire et des liens entre patientes et personnel de l'hôpital. Avec Romain Brosseau, Cécile Kerel, Flora Diguet, Marie Niger, Marie Thomas. Au centre de pédopsychiatrie du Bois-Perrin et à l'unité hospitalière spécialement aménagée.
L'oisouille, sous la charmille que l'aube mouille, perle son trouille. Comme il gazouille.
Oyon. Le gazouillon de l'oisillon. Sous la charmille que l'aube mouille,
perle son trouille, comme il gazille.
Gazouille.
L'oisouille.
Le gazouillon de l'oisillon, sous la charmille que l'aube mouille, perle son trouille, comme il gazouille. Elle est charmouille.
Non, je bafouille.
Je fais une tentative de timing. La mise en route corporelle, c'est quoi? C'est 5 minutes?
Non, plus. C'est plus.
Ah ouais, 15.
Ouais.
15.
Ouais, 15. Juste la mise en...
Quand on fait ça, quand on fait le timing, on fait toujours trop court.
Donc je mets 15 et puis... Ok, 15, ça fait...
Même si c'est 10, en réalité...
Non, mignonne, regarde ta table.
15 avec la présentation,
tu vois. C'est plutôt 14h55, 15h10.
Ah, putain, merde. C'est ça, je me disais comment on arrive direct. Il reste plus rien. On n'a rien fait, là.
Déjà 16h10.
Excusez-moi. Je m'appelle Marie.
Ah, alors c'est la création. Ah non, il y a plusieurs choses pour décrire le travail. Il y a surtout, il faut être en empathie. Il faut aimer le jeu. J-E-U, mais il faut s'aimer soi aussi, J-E. Et il faut aimer les autres. Hein. Et il faut avoir le souci de travailler en équipe d'élaborer en équipe, parce qu'un projet thérapeutique, ça se construit, ça s'élabore, ça se réfléchit. Donc il faut travailler en équipe pluridisciplinaire. Et puis, il faut être créatif.
Ok, on va faire un cercle pour commencer. Donc bonjour, tout d'abord. Cette semaine, on va faire des... C'est comme un atelier, mais en fait, on va faire un peu de théâtre, un peu d'écriture. L'idée, c'est de proposer des différentes formes que nous aussi, on va faire. Parce qu'on est 5. Si jamais vous voulez enlever vos manteaux, parce qu'on va commencer à s'échauffer un peu, et peut-être vous aurez chaud, les pieds parallèles, on déverrouille un peu les genoux, voilà. De manière assez énergique, bah, je vous donne les chaud aussi dans un sens, et puis de l'autre, ça peut bouger un peu.
Comment
je
m'appelle? Je m'appelle Jusqu'à la ligue. Ah, voilà.
et toi, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Maëlie.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit qu'elle s'appelle Maëlie.
Génial. Maëlie, et toi, comment tu t'appelles?
Léa.
Je m'appelle.
Je m'appelle Léa.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle a dit qu'elle s'appelle Léa.
Ah, Léa. Et toi, comment tu t'appelles?
Fatima.
Je m'appelle Fatima.
Très bien.
Premièrement, notre prénom.
Toi, comment tu t'appelles?
Deuxièmement, je m'appelle Justine. Un endroit où on aime être.
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Et troisièmement, notre vêtement préféré. Mais on va le dire comme si c'était... Et vous le dites d'affilée. Cécile, la plage près de Grimouville, mon pull rouge.
Marie, la piscine, ma veste en jean rembourrée.
Justine, mon lit avec mon chat, mon grand manteau bleu.
Manon, la plage, mon survie.
Flora, le petit étang du parc des Gailleuls, ma veste à sequins.
Fatima, dehors, la veste.
Léa, une librairie, mon jean.
Maëline, le parc, mon jean gris.
Hoda.
Plus vite.
Hold up. Alors, le geste il est bien ou pas?
C'est pas.
C'est
du doigt. Taxi, c'était pas ça?
Non. Ah ouais, ça peut être aussi ça.
Tu échanges?
Donc je vais vous proposer tout simplement de commencer à marcher dans cet espace. Comme vous le voulez, il n'y a pas de consigne sur la marche en elle-même. Donc vous marchez comme vous en avez envie, mais néanmoins, on va essayer de bien occuper tout l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas d'espace déséquilibré. Pour faire ça, on peut essayer de ne pas tout le temps faire la même trajectoire.
Excellent.
Là, ça,
c'est la dernière.
Ah ouais.
Là,
ici, moi, j'adore. Je suis arrivée.
La consigne.
Toi, t'en refais.
Et la fin du goûter.
Ah, on mangerait bien du chocolat à perte de vue. Ah.
L'idée de la page vide-tête, c'est qu'avant de se mettre à écrire, il y a plein de choses qui nous passent par la tête et qui ne sont pas forcément... L'idée, c'est pas du tout de faire beau, et c'est certainement pas de le lire derrière à voix haute. Ça nous appartient. C'est juste pour se dépolluer la tête. Autorisez-vous à penser ce que vous pensez. Alors, pour la suite, on a besoin d'une valise.
C'est une valise avec pas mal de choses à l'intérieur.
Avec pas mal de choses. Ce que je vous propose à toutes, comme hier, on a deux hommes aujourd'hui, mais on va utiliser le féminin. Ce que je vous propose à toutes, c'est de choisir un objet qui vous inspire. Vous êtes un personnage. Vous êtes quelqu'un d'autre, en tout cas. Okay, vous êtes un personnage, c'est-à-dire que vous pouvez tout vous autoriser. Et ce personnage, eh ben, dans sa vie, l'objet, il est vachement important. On donne des détails, c'est ça qui fait qu'on croit à une histoire, c'est parce que d'un seul coup, on peut s'y retrouver, quoi. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de lire? Enfin, quelqu'un a envie de lire, quoi.
Moi, je veux bien, mais je
veux pas.
Moi, je
veux. Vas-y, Fatima.
Je me dirige d'un parapluie, ou plutôt d'une brasse rapide, vers ma destination. Si j'ai choisi cette épave et choix au fin fond de la mer de Brest, c'est car je suis sûr que personne ne viendra me chercher par là-bas. Je tiens fermement la roche qui contient de l'azur, la seule matière solide capable de tuer un alter. D'autres diront que je l'ai trouvé très dehors des inter.
J'ai grandi, puis au fil des années, mon caractère s'est formé. Le 4 octobre 2004,
Bonjour la mère.
Pardon.
Sans cesse. Mon frère vient tenir.
Toutes les semaines, les mêmes rituels, aux mêmes heures, avec les mêmes personnes. C'était trop compliqué. Le matin, j'allais au travail, le même endroit depuis plus de 10 ans. J'aimais mon travail, mais chaque jour se ressemblait. Bonjour, une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît.
Tu pensais que ton texte, la première phrase allait aller vers là?
Non, pas tout à fait, ouais. Sacré Marco, sacré sophote de Marco.
C'est chaque jour la vieille dame de la boutique d'à côté.
Ça se tient aussi, hein, quand même. Enfin, je trouve que... T'as envie d'essayer?
Ouais.
Vas-y.
Comme chaque début de vacances, on s'est préparé pour se baigner. J'aurais mis mon beau maillot de bain rouge, que j'adorais tant. C'était ça, les vacances à Dauphane.
Mais moi, je comprenais pas. Du coup, j'ai mis, vous y comprenez quelque chose.
Ah, c'est bien. Et quand vous retrouvez vos phrases que vous avez écrites, Orlan, Eva, tout ça, vous vous dites, ah, ben, ça s'est bien mis avec les phrases qui sont avant et après. Ça vous fait quoi d'entendre vos phrases au milieu d'un texte, comme ça?
C'est cool.
C'est cool,
ouais.
Parce que moi, des fois, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, surtout quand le texte commençait. Je me disais, qu'est-ce que ça va donner, quoi. Et je trouve que ça se marie plutôt bien.
Ouais, des fois, je sais pas trop quoi mettre, mais...
Mais c'est toi, non? La raclette?
Oui.
Ouais, ouais. Trop bien. C'était vraiment cool.
Voilà. Je savais pas quoi mettre.
Trop bien. Bah, c'est parfait.
Avec Cécile, on est allé travailler, rencontrer les personnes qui sont en unité UHSA. Ce sont donc des unités carcérales en psychiatrie. Ces gens qui sont en prison et qui, pour un moment, ont besoin de soins psychiatriques. Et il n'y a pas de trace de ces moments-là. Aucune. Quelques notes. Mais il n'y a pas de journaux de bord. On n'a pas tenu nos journaux de bord. Parce qu'on avait besoin de sortir de là-bas. Et une fois qu'on était sorti, bah, on pensait à autre chose. On avait besoin peut-être de ne plus y penser. Et on n'a pas capté de son, parce que c'est impossible. C'est interdit. Capter du son voulait dire qu'il aura ensuite fallu que l'administration valide la sortie de ces sons, et pour nous, ça n'avait pas de sens. Avec Cécile, on est arrivé en UHSA après notre semaine avec les jeunes du Bois Perrin. On était hyper confiants, hyper motivés, puisque cette semaine s'était très bien passée. On avait bien préparé notre truc, et dès le premier jour, face au groupe, dans ces espaces qui étaient petits, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Qu'on était inadaptés. Alors il a fallu nous adapter à elles et à eux. Et revoir aussi nos exigences. On n'était vraiment pas au diapason avec ce qu'il et elle pouvaient faire et ce que les soignants et les soignantes aussi attendaient de notre travail, de notre présence. Mais, à force d'adaptation et de travail, on a pu quand même se rendre compte que ce qu'on a fait était important. Parce que ces gens-là étaient déconnectés de leur corps et de leurs émotions, souvent à cause du traitement, des lourds traitements. Et en fait, mettre juste quelques mots sur des émotions, fictionner même très légèrement, mettre des intentions sur une phrase, même de légères intentions, eh ben c'était déjà énorme. Pour elle et ça, on a mis du temps avant de le comprendre, et c'est seulement à la fin qu'on l'a compris. Cet endroit du milieu carcéral, en plus, paraît tellement loin parce que c'est compliqué d'y aller, évidemment. C'est des autorisations, il faut montrer ses papiers, c'est des portes et des portes. Et on peut pas emmener tout ce qu'on veut emmener avec nous. Donc cet espace paraît très lointain. Ça a existé, ça existera encore. Maintenant, on sait où on met les pieds. Mais là, cette année, de notre rencontre, il n'y a pas de trace. Il n'y a que la mémoire.
C'était Celle qui nous entoure. Première année, se rencontrer. Un projet de groupe Odyssée. Réalisation, Marie Niger. Coordination du projet, Romain Brosseau. Avec Flora Diguet et Marie Thomas, actrice. Cécile Kerel, autrice. Merci à Léa, Eva, Maëline, Orlane, Mona, Fatima, Manon, Ghislaine, Justine, Hugo. Et merci à l'équipe du Grand Cordel MJC et aux équipes du Centre Hospitalier Guillaume Régnier. Podcast réalisé dans le cadre de la première année de jumelage entre Groupe Odyssée, le Grand Cordel et le Centre Hospitalier.
Vous venez d'entendre la restitution sonore du projet « Ceux ou celles qui nous entourent », un projet artistique de 3 années en partenariat entre le Centre Hospitalier Guillaume Régnier, la compagnie de théâtre Le Groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Pour accompagner ces immersions sonores et vous partager un petit bout des coulisses de cette réalisation, Canal B reçoit en plateau après chaque épisode une personne ou plusieurs qui ont participé de près ou de loin à ce projet. Et aujourd'hui, nous avons avec nous
Justine, aide-soignante en pédopsychiatrie dans le service Pendwick avec les jeunes de 16 et 18 ans.
Et nous avons également
Romain Brosseau-Genest, metteur en scène et coordinateur artistique du projet. Et je suis dans la compagnie Groupe Odyssée.
Alors pour commencer, une question pour vous Justine, que je ne pose pas à dessein à Romain du coup. Qu'est-ce que vous en pensez du titre de ce projet artistique ?
Je trouve qu'il est plutôt pas mal parce qu'en fait il englobe vraiment toutes les personnes qui peuvent nous entourer. Et souvent, on a tendance à mettre un peu à l'écart les personnes souffrant de troubles psychiatriques, alors qu'elles sont là. Et là, ça permet de les inclure. Et je trouve que ce titre inclut vraiment toutes les personnes.
C'est comme ça que vous l'avez imaginé, Romain, au moment de créer, d'écrire ce projet ?
Ouais, en plus surtout qu'on a créé tout ça un peu à vide, fallait écrire un projet. Moi, j'avais jamais mis les pieds en psychiatrie, donc c'était juste de la projection, du fantasme. Mais l'idée quand même première, c'était d'aller travailler avec des gens qu'on ne voit pas beaucoup, avec des métiers dont on ne parle pas assez. Et donc c'était vraiment de parler de nous, artistes, et puis aussi des gens qu'on allait rencontrer, que ce soit des patients, des patientes, des résidents ou des résidentes, et puis les soignants, soignantes, bien sûr.
Vous venez de parler de fantasmes, un peu de rêves. Justine, est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour sortir un petit peu de ces fantasmes que les auditeurs, auditrices peuvent avoir sur qu'est-ce que c'est qu'un service de pédopsychiatrie, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement qui sont les enfants et les adolescents, adolescentes dans votre service ou dans les services de pédopsychiatrie en général ?
Donc moi je travaille vraiment avec des adolescents qui sont âgés de 16 à 18 ans. C'est une unité de soins qui accueille 13 adolescents en temps plein et des hôpitaux de jour qui viennent de temps en temps et des jeunes aussi qui sont hospitalisés à temps partiel. Y a une majorité de filles dans ces patientes. Je dirais, sur 13 patients, il y a une dizaine de filles par rapport aux 3 garçons. Et souvent, elles souffrent plus tout ce qui est TCA, donc troubles du comportement alimentaire, mais aussi de la dépression et des troubles borderline et des entrées dans la psychose.
Et globalement, un quotidien aussi d'enfants, d'adolescents entre 16 et 18 ans, à quoi ils ressemblent quand ils sont dans ces services ?
Bah en fait, ils ressemblent à tous les autres ados. Y a juste une petite différence, c'est que le mal-être est tellement insupportable qu'ils demandent de l'aide. Mais chez les adolescents, il y a de toute manière beaucoup de mal-être. Et là, c'est juste qu'il est juste trop insupportable et qui a besoin d'aide. Mais c'est des jeunes qu'on peut croiser sans souci dans la rue. Il n'y a pas d'inquiétude avec ça, en fait.
Pour en revenir un petit peu au projet artistique, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, depuis votre perspective d'aide-soignante dans ce service-là, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé les premiers jours ? Est-ce qu'il y a eu des réunions de préparation en amont ? Comment vous avez vu arriver ces artistes dans sur votre lieu de travail ?
Alors moi, je venais d'arriver en pédopsychiatrie et je me suis tout de suite saisie du projet parce que j'ai fait un peu d'études dans le théâtre. Et donc du coup, ça m'a évidemment tout de suite parlé, et j'ai fait « mais oui, c'est une super idée, au contraire, allons-y !» Ça va permettre de montrer aux jeunes que ben, la vraie vie, elle est dehors, quoi. Elle n'est pas uniquement enfermée en huis clos à l'hôpital, et que c'est vraiment autre chose, quoi. Et donc j'ai sauté à pieds joints, et on s'est rencontrés, il me semble, une ou deux fois, déjà, pour en parler, pour Romain et son équipe voulaient savoir qui étaient les jeunes qui étaient hospitalisés, ce qu'on pouvait faire, est-ce que l'écriture, est-ce que le jeu, c'était pas des choses qui étaient trop compliquées à mettre en place avec ces jeunes-là. Il s'est avéré que non, pas du tout.
On l'entend dans le reportage, ouais. D'ailleurs, on voit que les jeunes se sont emparés assez vite de ces travaux d'écriture, etc.
Oui, tout à fait. Et parce qu'encore une fois, ce sont des jeunes, pour la plupart, qui sont encore scolarisés, qui mènent une vie plutôt classique, en fait. Donc il n'y a jamais eu de souci avec ça. Donc il y a eu quelques réunions, et puis après on s'est directement lancé pour une semaine de jeux et d'écriture qui ont été fortes en émotion.
Et alors vous, de votre côté, peut-être Romain, est-ce que vous aviez des appréhensions avant de venir rencontrer ces adolescents, adolescentes qui, oui, peuvent vivre un mal-être assez intense, mais qui sont aussi des enfants comme tout le monde l'est?
Des appréhensions, oui, il y en avait, et c'était super parce qu'on était vraiment toute l'équipe en entier, donc on était 5, c'était du grand luxe, enfin, pour ça c'était quand même, c'est rare en fait qu'on soit autant pour un nombre de participantes, et ouais, il y avait des appréhensions, mais tous les matins, avant d'aller en pédopsychiatrie, on se retrouvait avec l'équipe, pour aussi partager, nous, faire une espèce de supervision interne, parce que c'était fort. Tu disais tout à l'heure, Justine, qu'il y a une majorité de filles. Nous, c'est ça qui nous a marqué. C'était que des filles en souffrance. Et donc, c'était la semaine de la journée de la femme, je crois. Enfin, il y avait un espèce de truc comme ça, c'était très présent. Et donc, tous les matins, on se retrouvait, on se disait ça marche bien, ça marche moins bien, ça on peut laisser tomber, ça il faut approfondir. Et par exemple, c'est vrai que, alors, le théâtre, ça a mis du temps, parce que c'est du corps. Donc en fait, ces jeunes-là, à ce moment-là, elles ont un problème avec leur corps. Que ce soit par... Il y a des médicaments, et puis il y a eu de la souffrance physique.
Et puis c'est dur aussi de se débloquer n'importe qui, en n'étant pas habitué à se mettre en mouvement de manière artistique.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on avait... C'était un peu comme avec n'importe qui. Ce qui était assez bluffant, c'était l'écriture. L'écriture, ça a vraiment été un déclencheur. On se disait, voilà, elles ont des choses à dire. Alors, c'était pas toujours simple au début. Puis, petit à petit, c'est venu. Et puis, ça écrivait. C'est un moyen d'expression qu'elles n'ont pas forcément... elles n'ont pas forcément le goût de l'écriture en dehors. Quand c'est à l'école, bon, c'est pas forcément toujours intéressant. Là, on sentait bien qu'il y avait une espèce de bulle comme ça qui s'ouvrait et qui nous a tenus toute la semaine.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel jeu d'écriture vous avez fait précisément ? J'imagine qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un exercice, par exemple, que vous avez fait et qui leur a, de votre point de vue, particulièrement plu ?
Je pense à deux choses. Il y a une première chose, donc Cécile Carrel, l'autrice qui travaille avec nous, a pour habitude de commencer toujours par la page vide-tête. Donc on réfléchit pas, on écrit en fait. Ça nous permet aussi d'évacuer d'un seul coup toutes les pensées qu'on a, qui peuvent être positives, négatives, ou qui juste nous prennent la tête. Donc en fait, on fait ça avant de commencer chaque session d'écriture. Et après, je repense à une chose. D'un seul coup, il y a plein de choses qui reviennent en tête, mais il y avait un cadavre exquis notamment, donc qui n'est pas arrivé le premier jour. C'est parce qu'on commençait à se connaître qu'on pouvait aussi, ça paraît tout bête un cadavre exquis, mais en fait... on écrit sans forcément savoir ce qu'on vient compléter ou ce qui va être complété après. Donc il y a une espèce de lâcher prise pour chacun, chacune, et il y a des filles qui se sont lâchées, quoi, qui nous ont écrit des trucs, mais limite indécents, mais il n'y avait pas de problème, puisque c'était de l'expression. Donc en fait, ça a créé des histoires complètement farfelues, et je repense quand même à une chose où on avait une valise avec des objets à l'intérieur, et à partir de ces objets, il fallait raconter l'histoire de ces objets. Ça a été... ces exercices sont super, parce qu'en fait, on fictionne complètement, mais on ne peut pas être que fiction. C'est-à-dire que forcément, ce qu'on amène dans la fiction, c'est des choses qui nous touchent, qu'on a en tête. Donc ça a été assez porteur aussi.
Et vous, Justine, de votre point de vue d'aide-soignante, est-ce que vous avez vu des personnes, des jeunes filles, mais aussi les deux autres hommes qui étaient là, peut-être se révéler, lâcher prise, avoir du bon temps aussi, autant que faire se peut, dans un quotidien qui peut être un peu oppressant?
Oui. Alors moi, je me souviens particulièrement de deux patientes qui sont restées ensuite hospitalisées dans l'unité. Et c'est vrai que c'était des patientes qui étaient plutôt renfermées, qui avaient du mal à s'exprimer. Et on voyait bien d'ailleurs que dans tout ce qui était expression corporelle, il y avait un petit blocage qui s'est un peu débloqué au fur et à mesure de la semaine, mais c'était compliqué. Par contre, au niveau de l'écriture, elles s'en sont saisies extrêmement vite. Je doutais pas qu'elle soit capable de s'en saisir, mais je m'étais dit peut-être que ça prendrait un peu plus de temps. Et en fait, c'est allé relativement vite et elles ont pu... l'écriture, c'est un moyen de se livrer mine de rien. Et on donne beaucoup moins, de prime abord, on a l'impression de moins donner en écrivant qu'en jouant, parce que du coup, on se montre pas, on dit juste. Et je trouve que c'est moins compliqué. Et c'est vrai que pour ces patientes-là, c'est l'idéal, quoi. Et on a pu effectivement avoir des patientes qui, derrière, étaient fières d'elles. Et ça, c'est super, quoi.
Est-ce qu'elles vous en ont reparlé par la suite de ce projet-là ?
Oui, tout à fait. Parce que c'est des jeunes qu'on a suivis un moment maintenant qui ne sont plus hospitalisés parce qu'il y en a une qui a plus l'âge. Et de toute manière, ça allait mieux, je crois. Elle avait des projets derrière. Et une autre qui... Je pense que ce projet a pu lui montrer qu'elle était capable d'eux. Et ça, c'est chouette.
Vous nous avez dit en début d'interview, Justine, ce dont on souffre, on va dire, de manière un peu moyenne, générique, dans ces services-là, lorsqu'on est adolescent, adolescente. De quoi on souffre également lorsqu'on est soignant aujourd'hui dans des services de psychiatrie et de pédopsychiatrie ?
Alors, on souffre terriblement du manque de médecins, même si actuellement, nous, on a un peu de la chance chez les 16-18 parce qu'on a deux médecins à mi-temps. Donc ça fait qu'un temps plein, alors que normalement il faudrait deux temps plein. Et par contre, chez les plus jeunes, les 12-16 ans, il n'y a plus de médecins. Donc c'est des médecins qui changent toutes les semaines. Donc vous imaginez bien la difficulté de la prise en charge. Et on manque de place aussi, parce qu'il n'y a que 13 lits chez les 16-18, et que ça, on reçoit tous les patients de Saint-Malo et de la Bretagne. Donc généralement, le lundi, on a 4 jeunes en plus. Et c'est le jeu des chaises musicales, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et ce n'est pas de la prise en soin, correcte en fait, parce que ça met tout le monde dans une difficulté pas possible de se dire, mince, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes qui sont arrivés en urgence le week-end, qui sont venus sur des lits permissionnaires, mais sauf que les gens qui étaient en permission reviennent. Et donc on en arrive à se dire, on va écourter les permissions des autres pour être sûr de ne pas faire d'entrée. Mais sauf que, encore une fois, la vraie vie, elle est dehors. Donc, quid quoi. C'est ça. Il manque vraiment cruellement de la place et des médecins.
Romain, est-ce que c'est pas un peu compliqué quand on arrive avec un projet artistique et dans un milieu qu'on ne connaît pas forcément, justement de tomber sur ces problématiques-là aussi, des problématiques de ressources qui sont totalement structurelles, et en plus avec des gens qui vont pas forcément bien. Est-ce qu'on met pas un peu les pieds dans le plat, ou est-ce qu'on arrive avec un beau projet qui finalement a du mal à se réaliser? Comment vous l'avez vécu?
Alors on essaye de pas mettre les pieds dans le plat, mais ouais, c'est hyper compliqué. À partir de la deuxième année, ça allait parce qu'on avait rencontré les personnes avec qui on allait travailler. Il y avait une confiance qui s'était établie. Mais le tout début, c'est, je crois, 9 mois de rencontres, de prises de rendez-vous, de mails, d'aller à tel endroit pour parler du projet, voir si ça prend. Et puis parfois, ça prend pas du tout. Justine, c'est un hasard. C'est une erreur, en fait, à la base. je raconte parce que c'est très concret. En fait, c'est tentaculaire, Guillaume Régnier. Donc,
on est 2700 à travailler.
Donc en fait, pour trouver les personnes déjà qui ont le temps, effectivement, ça c'est une vraie chose, d'avoir le temps de s'occuper de prendre en charge, parce que c'est des projets qu'on monte ensemble. Hein. Nous les artistes, on peut pas monter ça tout seul. Donc avoir le temps de prendre en charge et puis avoir le temps de faire des réunions préparatoires, bon, c'est déjà compliqué. Et après, il faut avoir l'envie, la compétence aussi. Et par exemple, moi, donc pour le travail avec l'UHSA, donc avec les unités carcérales, j'ai envoyé un mail à toutes les personnes qui travaillaient là-bas. Et Justine était là-bas juste avant, donc elle a reçu ce mail. Et elle m'a répondu en me disant « Ah, moi, je travaille en pédopsychiatrie. » Et en pédopsychiatrie, j'avais du mal à créer une accroche. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Pour des soignants, ça peut être compliqué de comprendre... je me souviens d'avoir vu des gens où nous on déballait un peu notre projet, notre intention. Avec, si on n'est pas dans le milieu culturel, dans le théâtre, dans le spectacle vivant, d'un seul coup les gens nous disaient non mais du coup concrètement vous allez faire quoi ? Parce que ceux qui nous entourent, se rencontrer, tout ça, l'écriture, bon d'accord mais je vois pas. Donc il faut, c'est un bon exercice pour nous aussi de d'être dans le concret en fait et puis de dire ben voilà en fait en 2 heures on va faire ça. Je pense qu'il y a vraiment du taf à faire parce que la culture et la santé ont vraiment des choses à faire ensemble. Mais évidemment, il faut que les artistes se mettent aussi à disposition et connaissent bien le travail des soignants. Et puis bah aussi, il faut que les soignants puissent faire un pas de côté. Mais ce n'est pas évident parce qu'on est quand même deux secteurs sous pression, précarisés. Donc il faut réussir à se rencontrer et puis à se comprendre. Et ça, pour le coup, avec le projet, on a réussi à le faire.
Là, c'était un projet sur 3 ans, mais qui comportait plusieurs acteurs. Donc, en termes de coordination, c'est vrai que ça a dû être un sacré challenge. Est-ce que vous avez des pistes, ou même juste personnelles, des idées pour rendre un peu ces liens, ces interactions plus durables, plus structurelles, plutôt que de simples projets sur quelques mois ? Est-ce qu'il y a des choses à imaginer que vous auriez envie de proposer au ministère de la Culture, au ministère de la Santé ?
Moi je pense que le long terme c'est une grande chance, c'est un luxe. Là on a travaillé sur 3 ans, donc on a eu le temps. La première année, donc celle qu'on évoque avec Justine, c'était le projet, le titre de l'année c'était se rencontrer. Et en fait c'était primordial, non seulement parce qu'on connaissait pas la psychiatrie, nous artistes, mais aussi parce que il faut apprendre à connaître ces 5 personnes qui vont venir de temps en temps dans ces unités travailler avec tel ou tel soignant. Donc le long terme, je dirais, et puis les croisements, en fait. Donc je repense à la pédopsie, parce qu'on parle de ça. Il y avait une jeune qui avait participé à cette semaine-là et qui, un week-end, est revenue de permission, un peu plus tôt, parce qu'on, dans le cadre du projet, on donnait un concert au CSTC, donc le Centre Socioculturel et Thérapeutique, qui est à côté. Et elle était revenue un peu avant pour pouvoir venir nous voir. Parce que forcément, ben on s'accroche aux gens. Effectivement, on les a mis en valeur. Il y a une rencontre qui s'est faite. Donc elle avait envie de nous revoir. Et c'est un endroit, ce concert, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, où il y avait donc cette jeune de pédopsie, des soignants de pédopsie, des gens de la maison de retraite. Voilà, et en fait, d'un seul coup, ces gens se croisent, ne sont plus cloisonnés en unité. Mais ça, c'est du travail. Et donc pour ça, il faut du travail, il faut du temps, il faut du personnel.
Il faut de l'argent.
Une idée aussi concrète pour rendre ces liens plus durables, Justine, de votre côté ?
Alors moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance, c'est qu'en fait, sur la semaine où j'ai pu travailler avec Romain, j'ai été détachée et j'étais DJ toute la semaine. Ce qui m'a permis de pouvoir venir tous les jours. Et ma journée de repos, je l'ai un peu écourtée pour justement pouvoir vraiment faire toute la semaine. Et ça, c'est une chance, en fait. C'est le fait de pouvoir être détaché sur ces projets-là, c'est la base. Parce que si on n'est pas détaché, on ne peut pas suivre le projet de bout en blanc, enfin de bout en bout, et du coup, il n'y a pas de sens.
Dans le reportage, on entend aussi une soignante, je pense, qui dit pour faire ce travail, il faut avoir de l'empathie, il faut aimer le jeu, J-E-U, et le jeu, J-E, il faut être créatif. Vous en pensez quoi de cette phrase ? Et est-ce que vous avez le temps d'être créative aussi dans votre métier au jour le jour ?
Alors c'est primordial, parce que sinon on s'ennuie, et c'est pas possible. Donc oui, en tout cas, de mon point de vue, j'essaye d'être le plus créatif possible et de proposer aux jeunes justement des choses. Donc moi, j'adore les médiations, donc que ce soit... Bah,
généralement le jeu de société. Et donc du coup, parce que je trouve qu'on apprend tellement en voyant des jeunes jouer justement à des jeux de société, de comment est-ce qu'on se comporte avec les autres, avec les règles, avec voilà. Donc quand il y a des gros projets, évidemment je suis preneuse, mais au quotidien, les petits... Enfin voilà, les journées ne se ressemblent pas, il y a des médiations qui sont proposées tous les jours et qui sont différentes, il y a du sport, il y a de la marche, il y a des jeux de société, il y a de la balnéothérapie, de l'équithérapie, voilà. On a quand même une large palette et on n'est pas empêché. Et ça, c'est déjà pas mal.
Vous jouez avec quel jeu de société, pardon, ça m'inquiète. Ça m'interroge, j'ai envie de savoir lesquels.
Ah ben, on joue à Moustache, qui est un nouveau jeu qui est vraiment pas mal, qui joue en équipe de 2 à 6 joueurs. Et on joue à Présage aussi, on joue au Rumicube, au Petit Bac aussi, au Président. Enfin voilà, on a une grosse palette de jeux et c'est génial parce que ça permet aussi de détacher un peu les jeunes de leurs problèmes et de leur montrer que ben ils peuvent aussi passer des moments où qu'ils ont le droit et que c'est pas gênant et qu'on a le droit d'aller mal, mais on a aussi le droit d'aller, quand on va mal, bah de faire des choses qui font plaisir.
Une dernière question pour vous, Romain. L'expérience en service avec des jeunes en psychiatrie, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous dans votre posture d'artiste, de personne sachant aussi coordonner des projets avec des acteurs qui sont divers et là qui étaient nouveaux ?
Bah, ça nous renvoie quand même ça nous renvoie à nous, quand on travaille avec des jeunes comme ça, de 16 ans à 18 ans, qui sont dans ce mal-être... Voilà, donc toutes les jeunes filles ne vivent pas comme ça des traumatismes et ne sont pas forcément en psychiatrie, mais on se pose quand même des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être une jeune fille aujourd'hui. Donc moi je suis le seul mec de l'équipe, mais ça a remué toutes les filles, les femmes qui ont des enfants ou allaient avoir des enfants, ça a remué beaucoup de gens. Et puis aussi travailler en psychiatrie, c'est aussi à enlever, on parlait de ce fantasme un peu de l'asile, voilà, de la camisole, de l'uniforme, de toutes ces choses-là. On a travaillé aussi avec des personnes qui ont travaillé en pédopsychiatrie il y a longtemps et qui ont vu le changement à une époque où c'était encore cauchemardesque. Bah voilà, aujourd'hui, la psychiatrie, quand on y travaille, on se dit ça pourrait être mon petit frère, ça pourrait être mon neveu, ça pourrait être moi.
Plus tard, ça peut
plus
être
tard. Vrai. Et pas forcément parce qu'il y a un drame, mais juste à un moment parce que notre vie à ce moment-là n'est pas supportable. On a besoin de soins. Donc c'est pas forcément long, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément définitif. Mais on est tous et toutes dans le même bateau. Et c'est pour ça que la psychiatrie, c'est bien. Moi, je suis content qu'on en parle. Je suis content que ça se diffuse comme ça parce que c'est pas grave. Il faut accepter aussi à un moment d'être faillible. On nous demande quand même beaucoup de ne pas l'être. Donc il faut accepter un peu ces fragilités et puis se dire que parfois on a juste besoin d'un coup de pouce.
Merci beaucoup Justine et Romain d'être venus à Canal B pour nous parler de cet épisode du projet CEUX qui nous entoure.
Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup.
Merci.
C'était Celle qui nous entoure, une série sonore consacrée au projet du même nom, porté par le Centre hospitalier Guillaume Régnier, le groupe Odyssée et le Grand Cordel MJC. Un épisode à retrouver sur le site de Canal B.